Alpe 1, le 8h30.
Et notre invitée ce matin dans le 8h30, Marie-Josée Allemand, bonjour.
Bonjour.
Députée des Hautes-Alpes sur la première circonscription dans le groupe socialiste et apparenté. Vous avez visité ce mardi la maison d'arrêt de Gap. C'était quoi le but de cette visite? Vous avez fait appel à votre droit parlementaire. Donc,
oui.
Visite impromptue, visite
tout
surprise.
Tout à fait.
C'était quoi le but?
Le but, c'était de me rendre compte sur place si effectivement les travaux qui étaient programmés l'année dernière avaient avancé et si les personnels s'est retrouvés dans ces améliorations qui ont été faites à la maison d'arrêt.
Et alors, conclusion?
Conclusion, les travaux ont bien été livrés, donc ils ont été livrés la veille. Mmh. Et effectivement, le personnel pénitentiaire se retrouve quand même dans des conditions de travail un peu plus favorables. Alors, il faut poursuivre ces travaux dans cette maison d'arrêt, hein, puisque la maison d'arrêt est au centre de la ville de Gap, dans un bâtiment historique. Donc, on ne peut pas pousser les murs. Mais là, en l'occurrence, ce qui a été fait correspond tout à fait à ce qui était prévu.
Oui.
Et je pense que ça contribue aussi à apaiser les esprits, à apaiser les détenus qui sont dans cette maison d'arrêt et d'avoir, de fait, des conditions de travail favorables.
Vous étiez à l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Gap. La procureure Marion Lozac-Meur en a parlé de la maison d'arrêt de Gap et de la surpopulation carcérale avec parfois des effectifs jusqu'à 48 détenus alors qu'il n'y a que 33 places. Elle évoque d'autres possibilités d'aménagement de peine quand c'est possible, bien évidemment, et ce quartier de semi-liberté. Mais comme elle le disait, ça pose quand même des questions de sécurité parce que cette maison d'arrêt, elle est en plein centre-ville.
Tout à fait. Cette maison d'arrêt est en plein centre-ville, donc ça pose évidemment la question de sécurité des personnes aux abords. Mais de notre côté, aujourd'hui, effectivement, il y a de la surpopulation dans cette maison d'arrêt. Et je dirais, on n'est pas ni mieux ni moins bien qu'au niveau national. Mais néanmoins, ça reste un lieu de passage, je vais dire ça comme ça, un lieu de passage des détenus qui ont des très courtes peines. Et donc, on arrive à peu près équilibrer, même si ce n'est pas toujours très satisfaisant. Voilà, le principe, on a évoqué aussi, vous avez dit, le quartier de semi-liberté qui a été totalement rénové. Et je pense que lorsqu'on a des locaux qui sont adaptés, ça conforte les personnes dans leur travail.
Vous n'avez pas voté la confiance au gouvernement de François Bayrou. Pourquoi?
Parce que tout simplement, la question est de savoir si est-ce que oui ou non on peut faire confiance à François Bayrou. La réponse est non.
Et pourquoi?
Mais parce que lorsque nous avons discuté du budget en début d'année, lorsqu'il est arrivé, il a fait un certain nombre de promesses. Et lorsque nous avons laissé, nous nous sommes abstenus sur le budget pour que la France ait pour que notre pays ait un budget, immédiatement après, il s'est assis sur des promesses écrites. Et il me semble que c'est extrêmement grave.
Qu'est-ce qui vous vient en tête sur ces promesses écrites?
Mais par exemple, au niveau des retraites, on avait demandé à ce que soit fait cette rencontre avec les syndicats et qu'on laisse la main à la discussion de cette réforme. Et en fait, tout le monde a discuté, certes, mais à la sortie, il n'y a rien. Et on ne peut pas considérer qu'après des mois de discussion, il n'y ait rien à la sortie. On s'y assoit dessus. Ça fait partie, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est ce budget catastrophique qui nous a été présenté. Et il n'y a rien de pire que dire aux Françaises et aux Français le 15 juillet que tout va mal dans notre pays, qu'ils vont devoir faire des énormes sacrifices. Ça veut dire que tout l'été, les Françaises, les Français ont passé leurs vacances alors qu'ils étaient là pour se reposer à se demander de quoi allait être fait.
Mais c'est vrai, en même temps, la France est dans une situation catastrophique.
On est tous d'accord sur le problème de la dette. On est tous d'accord. Maintenant, comment on réagit? Nous, ce qu'a dit François Bayrou est inacceptable. Ce qu'il a proposé était inacceptable aussi et on voit bien la reculée immédiate du nouveau Premier ministre sur, par exemple, les deux jours fériés. Immédiatement, sans discuter avec personne, il est reculé dessus, c'est que ce n'était pas juste. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde contribue à hauteur de ce qu'il doit contribuer.
Il y a donc plus de confiance envers Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, qui a déjà annoncé certaines mesures, notamment de revenir sur les avantages à vie des ex-premiers ministres.
Alors, c'est plutôt de l'ordre de la symbolique, ce type de mesures.
Le fait de communication.
Oui, bien sûr.
Ça rassure quand même.
Ça rassure quand même. voilà.
Mais ça fait ça, pas, montre aussi ça que le, pas ça les montre poches.
Aussi que là-haut, on prend conscience de ce qui se passe.
Est-ce que vous pensez néanmoins, que ce sera justement un Premier ministre qui prendra conscience de ce qui se passe sur les territoires sur
la sortie, enfin, il a reçu hier les groupes, le groupe PS notamment, et ce qu'il en ressort, bon, on est toujours sur notre fin. On va dire ça comme ça. On n'a aucune avancée à la sortie de cette réunion.
C'est la taxe Zucman, par exemple, qu'il faudrait faire passer ?
Alors, ça ne suffira pas.
On va rappeler hein, ce que c'est que cette taxe Zucman. La proposition d'une taxe plancher de 2% par an sur le patrimoine des centimillionnaires.
Alors, je rappelle quand même, ça représente à peu près 2000 familles sur l'ensemble de notre pays. Et jusqu'à preuve du contraire, notre département ne sera pas concerné. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des mesures qui doivent être mises en place. C'est l'équité devant l'impôt, mais pas que. Il me semble qu'aujourd'hui, on doit aussi geler, par exemple, le moratoire des retraites. On doit arrêter et attendre 2027, voir remettre cela sur le tapis. Et puis, on ne peut pas penser au pouvoir d'achat des Françaises et des Français.
Donc, ça veut dire que jusqu'en 2027, le régime de retraite est sûr, on pourra le financer ?
Oui,
parce qu'on avait
sûr.
L'impression d'avoir une situation d'urgence quand même.
Écoutez, le discours dramatique qu'a fait notre ex-premier ministre n'est pas entendable. Aujourd'hui, lorsqu'on conçoit un budget, on commence par regarder les recettes dont on dispose, et c'est ce que l'on fait dans tous les ménages. On regarde les recettes dont on dispose, et après on regarde, on adapte la dépense en face.
En tout cas, la France est dans une situation d'urgence, il lui faudrait un budget.
Il nous faudra un budget. Donc, charge à M. Lecornu de faire en sorte qu'il passe l'épreuve du budget.
Alors, les entrepreneurs aussi, sur le territoire basalpin ou alpin, ressentent ce flou politique, notamment dans les chiffres. Certaines TPE enregistrent jusqu'à moins 20% de baisse. Est-ce que vous vous sentez responsable, quelque part, d'un flou politique qui laisse un flou économique ?
Je ne m'en sens pas responsable. C'est des années et des années de situations catastrophiques au niveau national qui font que on en est arrivé là. On peut pas dire aujourd'hui aux députés dont je fais partie et qui ont été élus il y a à peu près un an qu'ils sont responsables de toute la misère de notre pays. Ce n'est pas concevable, même si on a une charge chacun et chacune. Mais moi, il me semble ce que j'ai fait. Et ce que je fais à l'Assemblée, et c'est pour ça que je vais à l'Assemblée nationale, c'est pour retirer du gain pour notre territoire. Et c'est possible. C'est possible. On en a parlé en début de semaine avec l'histoire du train de nuit qui va être dévié par Grenoble. On arrive à avoir des choses. Et moi, je vais pour notre département, pour qu'on puisse mettre en avant nos territoires ruraux.
Alors, le train de nuit, en effet, Paris-Briançon, qui circulera en effet entre le 22 septembre et, rappelez-moi, le...
Il y a une dizaine de jours.
Une dizaine de jours, exactement, qui circulera en tout cas via Grenoble. La discussion est possible, du coup, avec la SNCF ?
Mais bien sûr, et je pense que, et je l'ai fait et je le refais, et je remercie la SNCF d'avoir pris en compte ce que les usagers, ce que les associations et ce que nous, élus, leur disons depuis... D'autres avant moi, et nous particulièrement depuis quelque temps, oui, c'est possible de discuter avec la SNCF, il faut continuer. On voit que la dérivation par Grenoble est possible, il faut continuer.
Parce que là, c'est qu'une dizaine de jours. Est-ce qu'on arrivera à pérenniser cette solution ?
Je pense qu'une fois qu'on l'aura utilisée, on ne pourra plus nous dire que ça n'est pas possible.
Marie-Josée Allemand, députée des Hautes-Alpes, qui était notre invitée ce matin dans le 8h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Alpes 1, le 8h30.